Honnêtement, je suis vraiment béni de pouvoir apporter la parole ici, puis particulièrement ici, parce que c'est mon église locale. Et ce qui est beau dans l'église locale, c'est qu'ensemble, on peut grandir. On peut s'édifier. Ce n'est pas seulement une personne qui parle et des gens qui écoutent, mais c'est des gens, des chrétiens qui créent des relations, qui s'édifient ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. Amen. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'être avec mes frères et sœurs avec qui je vis ma vie spirituelle. Et si vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'église fait une réelle différence dans nos vies. Yes, l'église est essentielle à nos vies en tant que croyants. Sans l'église, on ne pourrait pas grandir. On ne pourrait pas connaître mieux Dieu, je crois. Puis, vous savez, ça me fait penser à cette histoire où un jour, une dame venait de perdre son papa, puis elle se rend aux obsèques de son papa. Elle arrive aux obsèques, puis là, elle se retrouve seule. Ce qui est important de savoir, c'est que cette dame-là, habituellement, était tout le temps entourée d'amis, des collègues de travail qu'elle rencontrait à l'extérieur de son travail, des relations, beaucoup de relations. Mais le jour où elle a besoin d'être soutenue, elle se retrouve seule. Personne pour l'entourer, personne pour l'accompagner dans son deuil. Puis oui, il y a bien une personne qui est là, qui est présente, une de ses collègues, mais qu'elle ne connaît pas trop, qui vient d'arriver dans la compagnie. Mais à part ça, vraiment une personne proche d'elle, personne. Et elle voit aussi arriver sa sœur. Effectivement, il y a sa sœur qui arrive dans le lieu des obsèques. Puis, sa sœur vient aussi pour ce moment-là. Puis quelque chose la surprend, cette dame, lorsqu'elle voit sa sœur, c'est quand elle voit l'entourage qu'elle a autour d'elle. Elle va voir sa sœur, lui dit « Qui sont ces personnes ?» Sa sœur de lui répondre « Tu sais, je t'ai expliqué il y a quelques temps en arrière, j'ai rencontré Jésus, je suis devenue chrétienne, et toutes ces personnes qui m'entourent, c'est les frères et sœurs de l'Église qui sont venus m'accompagner pour vivre ces temps difficiles. » Je crois réellement que l'Église fait une différence dans nos vies. Amen. Et ce matin, c'est vraiment le but de mon message, c'est combien dans l'Église, Dieu veut agir à travers nous, mais aussi à travers nous, Dieu veut agir dans l'Église. Dans différentes sphères de la vie, on va le voir, mais aussi dans l'Église. Donc, on va faire un petit survol de l'Épître aux Éphésiens. Et je ne sais pas si vous connaissez bien cette Épître-là, mais Paul parle vraiment à une Église. Il va parler des grâces qu'on trouve dans l'Église, des responsabilités qu'on a dans l'Église, puis des responsabilités qu'on a également à l'extérieur de l'Église. Et tout à l'heure, je disais, il n'y a rien comme l'Église, mais je viens d'entendre une voix, la pensée de quelqu'un là, qui est venue à mes oreilles. J'affirme qu'il n'y a rien comme l'Église. Et peut-être que tu en doutes parce que tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas l'Église. Et à juste titre, je pense qu'on peut en douter lorsqu'on voit les actualités, lorsqu'on voit les nouvelles. On voit l'atrocité que l'Église a pu faire dans la vie de certaines personnes, de nombreuses personnes, malheureusement même. En fait, j'ai envie juste de dire que ce n'est pas l'Église spécialement, c'est les hommes qui ont utilisé l'Église. Puis ce n'est pas le sujet de mon propos ce matin, mais justement, si tu es curieux de savoir ce que dit la Bible sur l'Église, j'aimerais t'encourager. On va lire un livre qui s'appelle Éphésiens. Lis-le cette semaine. Laisse-toi challenger et laisse-toi saisir par ce que Dieu vraiment veut pour son Église et l'amour qu'il veut déverser par son Église. Puis toi, si tu es chrétien aussi, un petit devoir pour toi cette semaine avant de commencer le message. Lis aussi Éphésiens. C'est 6 chapitres, un par jour, et puis dimanche, tu pourras venir nous parler de ce que tu as appris pendant 6 jours. Mais lis ces 6 chapitres et tu vas voir comment Dieu veut te faire grandir à travers l'Église. Et tu vas voir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi également en tant qu'enfant de Dieu et à travers l'Église. J'ai 35 minutes pour apporter un message, le message. En 35 minutes, on va faire un survol. Il y a bien un pasteur gallois au 19e siècle qui, lui, a fait 35 messages sur le premier chapitre d'Éphésiens. Moi, je vais faire 35 minutes sur le survol d'Éphésiens. C'est correct pour vous ? Ça va aller ? On va lire ensemble, si vous voulez bien. Éphésiens 5, des versets 15 à 20. Ça va s'afficher à l'écran si vous n'avez pas de quoi suivre. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce à Dieu pour tout, au nom de notre paix, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Amen. Un peu de contexte de cette lettre. L'auteur de cette lettre s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est-il? Si tu ne le connais pas, c'est un ancien persécuteur de l'Église. C'est une personne qui mettait à mort des croyants. Un jour, Dieu l'a rencontré, lui a montré l'ampleur de son péché, la gravité de son péché, combien il déplaisait à Dieu. Et il a été saisi par la grâce de Dieu, saisi par l'amour de Dieu, saisi, il a pris conscience et Jésus l'a transformé. Il a fait de lui son enfant. Et cet homme est passé de persécuteur de l'Église à un homme qui a eu un impact incroyable pour l'Église. Et alors que ce fameux Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, il est actuellement en prison. Même en prison, l'apôtre Paul s'inquiète pour l'Église et veut encourager l'Église. Tout un homme, ce Paul. Et cette lettre qu'il écrit aux Éphésiens, on pense en fait que cette lettre, c'était une lettre qu'on appelle circulaire. Ce n'est pas spécialement une lettre pour une seule église en particulier, mais toutes les églises qui étaient autour d'Éphèse. En fait, tous les groupes de croyants qui étaient autour d'Éphèse, et finalement, si c'était bon pour eux, pour plusieurs groupes de croyants, c'est certainement que c'est bon pour nous ce matin. Quelqu'un doit dire amen. Yes. Donc, une lettre à destination de l'église, de la communauté des croyants. Puis, avant même de rentrer en profondeur dans le passage sélectionné ce matin, on va faire un petit survol. Des chapitres 1 à 3, Paul va enseigner le statut d'enfant de Dieu et d'église de Dieu, notre statut, les bénédictions qui sont pour nous en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'église de Dieu, notre position céleste en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'église. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, il dit alors qu'on est encore sur terre. Notre position est déjà avec Dieu. Il va parler du sceau que Dieu a mis sur nos vies, l'Esprit Saint. On va en reparler plus tard. Puis, il va également prêcher l'Évangile. Il va parler de l'ancienne condition lorsque nous n'étions pas enfants de Dieu, mais le salut que nous avons reçu par grâce. Combien sont d'accord que les chrétiens ont encore besoin d'entendre parler du salut par grâce aujourd'hui? Il change les vies encore. Amen. Et du chapitre 4 à 6, Paul va enseigner les implications de la grâce dans nos vies aujourd'hui, dans différentes sphères, et c'est principalement... Première partie qu'on va voir aujourd'hui, les implications de la grâce de Dieu dans notre vie en tant que croyants et dans l'Église, et l'exhortation à utiliser les moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour notre édification, pour suivre Jésus. On parle de la prière, on parle de la parole, on parle de plusieurs choses. Bref, l'apôtre Paul nous enseigne comment notre salut d'enfant de Dieu affecte notre vie chrétienne individuelle et communautaire. Le titre de mon message ce matin est « Une vie chrétienne qui honore Dieu ». J'invite à relire avec moi le début du passage qu'on va voir, versets 15 à 18. « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. » Beaucoup de choses. Mais premièrement, Paul va nous dire « Veillez à votre comportement ». Il y a une exhortation. Veille à ton comportement, mais il y a également une problématique. La problématique, ne vous enivrez pas de vin. Ne vivez pas comme des fous. Ne vivez pas comme des personnes sans intelligence. Faites attention à votre comportement. Ne vivez pas de telle manière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contexte à tout ça. À cette époque-là, dans l'Empire romain, les croyants étaient confrontés à une réalité ambiante dans la société, l'idolâtrie. Il y en a encore aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Et l'idolâtrie, à cette époque-là, les hommes s'enivraient de vin, les hommes buvaient de l'alcool, venaient dans un état où ils étaient hors de contrôle de leurs moyens. Puis après, ça donnait à toutes sortes de choses innommables, des orgies, des choses comme ça. En espérant, dans cet état-là, pouvoir gagner la faveur d'une divinité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul alerte les croyants, ne vivez pas de cette manière-là. Faites attention à la manière dont vous vous comportez. Et on pense qu'effectivement, il y avait certainement des croyants matures, et il y avait aussi certainement des croyants, des jeunes croyants qui étaient dans l'Église. Donc l'apôtre Paul veut enseigner attention à la manière dont vous vous comportez. Mais regardons à trois domaines particuliers où Paul va enseigner les croyants à faire attention dans leur comportement. Dans l'église, dans les foyers et dans le milieu de travail. Je vous invite à lire ensemble, les passages vont apparaître à l'écran, faire un petit survol de ce que dit Paul sur ces trois sujets. Éphésiens 4, 1. « Je vous encourage à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. » Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Dans l'Église, vivez avec humilité et douceur. Soyez remplis d'amour, supportez-vous. L'unité. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. La grâce dans l'Église, alors qu'on regarde à la grâce que notre Sauveur nous a donnée. Puis Éphésiens 5, 1. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Encore une fois, imitez Dieu, lui qui s'est donné pour nous. Dans nos relations, l'apôtre Paul nous enseigne à imiter Dieu. Regardez à ce que Dieu a fait pour nous pour que nous puissions également, que ça puisse impacter nos relations interpersonnelles dans l'Église. Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai entendu à plusieurs reprises des chicanes dans l'Église qui ont mené à des divisions. Peut-être que vous en avez déjà entendu aussi, et vraiment je suis attristé par ça, et je crois que Dieu est attristé par ce genre de situation aussi. Et l'apôtre Paul nous enseigne à vivre dans l'amour, nous enseigne toutes sortes de choses, puis on ne va pas prendre plus de temps là-dessus, mais cette semaine, vous avez un devoir, 6 chapitres à lire, allez les méditer, allez les lire et voir comment ça peut transformer votre vie dans l'Église. Mais également, l'apôtre Paul va nous dire, attention à votre comportement dans votre foyer. Éphésiens 5, 21 à 33. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Un respect mutuel, une femme qui accepte le leadership de son mari, qui le respecte, un mari qui se donne comme Christ a donné son Église, qui était la prunelle de ses yeux, la femme qui est la prunelle des yeux de l'homme. Un respect mutuel, un amour, un respect. Éphésiens 6, 1 à 4. L'apôtre Paul va dire « enfant ». Et là, je vais rajouter « enfant chrétien ». Dans le contexte de cette lettre, l'apôtre Paul parle à des croyants qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Donc « enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et vous, père, je voudrais dire mère également, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Il y a une volonté de Dieu pour nos familles, pour nos foyers. Et je vous laisserai y méditer également cette semaine. Mais Dieu aussi, une volonté pour nos milieux de travail, nos sphères du travail. Et Paul va l'enseigner, Éphésiens 6, 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement. Comprenez ici les termes de l'époque. Aujourd'hui, on pourrait dire employés. Obéissez à vos supérieurs, aux personnes qui sont en autorité sur vous dans le milieu du travail. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave et homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. En tant qu'employé, travaillez comme si on travaillait pour Dieu. L'enseignement de Paul, mais également Paul va dire aux personnes en autorité, à un patron, une personne qui a des gens sous sa responsabilité, « Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos esclaves, abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. » L'apôtre Paul parle à des croyants, hein, des ouvriers croyants, des ouvriers qui ont reçu sa grâce, des patrons, des personnes en responsabilité qui ont reçu sa grâce. Et en fait, l'apôtre Paul va encore énumérer d'autres choses qui n'ont pas à avoir lieu dans la vie des croyants. Il va énumérer l'immoralité sexuelle, l'impureté, la soif de posséder, le commérage, l'abus d'alcool, la consommation de toutes sortes de produits qui viennent nous mettre hors de contrôle de nous-mêmes. Et en fait, quand je vois cette liste-là, je dis « Waouh, l'apôtre Paul, il a mis là la barre quand même. » Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi personnellement, je n'arrive pas toujours à être un bon mari. Je n'arrive pas toujours à donner mon 100% au travail. Puis oui, il m'arrive des fois de savoir que j'ai des choses à faire, puis je traîne la patte. Puis je laisse les choses couler. L'apôtre Paul a mis une barre très haute là. Mais ce qui est rassurant, c'est que l'apôtre Paul, alors qu'il donne cet enseignement-là, On voit en Romains 7 et 8, que lui-même est tourmenté par ce standard, le standard de Dieu. Parce que il va le dire, nous vivons dans la chair et notre chair est attirée par le péché. Notre chair ne cherche pas les choses de Dieu. Alors il dit, il y a la loi de la chair qui est là et il y a la loi de l'esprit. J'ai comme une lutte, une tension, je fais les choses que je ne voudrais pas faire et je n'arrive pas à faire les choses que je voudrais faire. Il sait lui-même, le standard qu'il est en train de nous donner, il sait lui-même qu'il est très difficile à atteindre. Et c'est un peu comme le lion, vous voyez. Vous connaissez certainement cette illustration, vous l'avez déjà entendu, Sir Florian l'avait déjà donné. Le lion qui, vous lui proposez un bon steak ou une bonne salade, il n'en voudra pas de la salade. C'est vrai, il a attiré sa nature, c'est de manger de la viande. Notre nature pécheresse nous pousse vers le péché. Notre nature est d'aller vers le péché, mais il y a un surnaturel qui veut nous amener à accomplir ce que Dieu veut pour nous. Amen. C'est ce que nous allons voir ensemble. Paul nous a mis le standard de Dieu, mais il va nous apporter la clé du standard de Dieu. Regardons ce qui suit. Court passage. Quand il vient de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Et là, plusieurs théologiens sont assez d'accord pour dire que ce court passage, soyez remplis de l'Esprit, c'est pas mal la clé d'Éphésiens, puis la clé de cette partie pratique d'Éphésiens. C'est un peu le centre qui va faire shifter notre compréhension. Et en fait, on pourrait le traduire de cette manière-là. Soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois, mais c'est quelque chose qui est continuel. Alors, intéressant, mais vous allez voir, quand vous allez étudier cette semaine la lettre aux Éphésiens, que l'apôtre Paul va parler à plusieurs reprises de l'Esprit. Et au chapitre 1, il va en parler aussi. Mais ce n'est pas la même chose qu'il est en train de parler. Je vais vous donner un petit cue tout de suite. Au chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit, nous avons été scellés par l'Esprit. Il est en train de parler de notre statut d'enfant de Dieu. Il est en train de dire, comme à l'époque, on prenait un sceau pour mettre sur une lettre, pour pouvoir l'envoyer et puis officialiser la lettre. Ce sceau attestait aussi de l'autorité qui venait d'envoyer la lettre. Lorsque nous sommes devenus croyants, lorsque nous avons été touchés par la grâce de Dieu, Dieu a mis un sceau sur nos vies, c'est l'Esprit qui habite en nous. Donc, chapitre 1, l'apôtre Paul parle de l'Esprit qui vit dans le croyant. Mais dans le passage à l'étude actuellement, lorsqu'il dit « soyez remplis de l'Esprit », ce n'est pas de ça qu'il parle. Et pour le comprendre, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble deux passages. Éphésiens 5, qu'on est en train de lire, puis Colossiens 3, 16 à 25. On va les mettre en comparaison. Vous allez très vite voir ces deux passages très similaires. Éphésiens 5 nous dit « au contraire, soyez remplis par l'Esprit ». Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Colossiens va dire que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous voyez un petit peu les similitudes. On parle du chant dans les deux. Et plusieurs sont d'accord là aussi pour dire que l'apôtre Paul est en train de dire la même chose du début à la fin de ces passages. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit, va être mis en pratique parce qu'il nous révèle en Colossiens 3 que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. C'est l'apôtre Paul est en train de nous dire. En tant que croyant, pour atteindre les standards de Dieu, naturellement, on ne peut pas, mais on a besoin d'être rempli de l'Esprit. Et pour être rempli de l'Esprit, il y a une grâce que Dieu veut te donner à tous les jours lorsque tu vas à son contact, lorsque tu vas au contact de sa parole, que la parole de Christ habite en toi. Alors que tu vas être au contact de Dieu, Dieu va venir transformer, Dieu va venir mettre en lumière les endroits où il veut travailler dans ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez que Dieu vienne travailler vos vies ce matin? Yes. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui et il veut agir dans nos vies aujourd'hui pour être des chrétiens à la gloire de Dieu. Et vous allez voir encore dans Éphésiens 1, vous allez tout connaître avant de le lire, mais à trois reprises, l'apôtre Paul va dire que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. C'est vraiment ça. L'Esprit de Dieu va venir en nous au contact de la parole, au contact de Dieu pour en tant que croyant, briller dans toutes ces sphères qu'on a citées, le travail, la famille, l'Église, et par conséquent rendre gloire à Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme ces enfants, même ces jeunes, même plus âgés d'ailleurs. Une personne qui a une mauvaise fréquentation et qui l'entretient, on va le voir. Avec le temps, on va le voir. Plus tu vas entretenir une mauvaise fréquentation, plus va y avoir un impact dans ta vie. Chez certains enfants, on va constater des résultats en baisse à l'école, des conflits avec les parents, des habitudes cachées, un langage ou un comportement qui change. Même les parents ne reconnaissent plus leur enfant au bout d'un moment parce que l'enfant s'entretient d'une mauvaise relation, une relation néfaste pour sa vie. À l'opposé, l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que plus tu vas entretenir ta relation avec Jésus, plus ça va être bon pour toi, plus ça va être bon pour ta vie, plus ça va être bon pour ton foyer, plus ça va être bon pour ton église, ça va être bon pour le frère ou la sœur qui est à côté de toi, plus ça va être bon pour tes collègues de travail. Amen. Alors ce matin, très pratiquement, j'aimerais t'inviter. Retrouve le chemin du lieu secret. Reprends le chemin de la parole de Dieu. Retrouve ce chemin que tu as peut-être laissé il y a quelque temps. Ce chemin où tu parlais à Dieu. Retrouve cette relation avec Jésus. Vous savez, c'est ça qui est beau dans cette lettre éphésienne, c'est que nous avons été scellés par Dieu, par son esprit. Nous restons ses enfants. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on reçoit le salut, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous restons ses enfants, mais Dieu nous appelle à plus maintenant. Il nous appelle à être remplis de l'Esprit, à grandir à sa gloire. Et oui, être rempli de l'Esprit, ça va avoir un impact dans toutes les sphères qu'on a vues. Mais ça va avoir, comme j'ai déjà dit, on va en parler plus longuement, un impact dans l'Église. Verset 19, 20, l'apôtre Paul va dire « Parlez-vous par des cantiques ?» des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. On en parle moins dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de places de chant, moins dans le Nouveau Testament, mais quand on tombe face à des passages comme ça, on voit quand même qu'il y a une importance du chant dans l'Assemblée. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, chanter, célébrer le Seigneur. Et l'apôtre Paul n'est pas en train de vous voyer une personne là. Le « vous », ce n'est pas pour être poli. Il parle dans le contexte d'Éphésiens à toute une église, à un groupe de croyants. Parlez-vous par des cantiques, entretenez-vous dans le chant. Et puis c'est un impératif, ce n'est pas un choix. Faites-le. Les auteurs Kate et Christine Getty qui ont écrit le livre « Sing, chantons », et aussi le chant que vous connaissez peut-être, « In Christ Alone », en Jésus seul, on dit la chose suivante. Le fait de chanter en Église comme un corps uni nous rappelle que nous ne sommes pas définis par l'individualisme farouche promu par la société moderne. Lorsque je chante avec mes frères et sœurs, je suis conscient qu'il y a un corps autour de moi. Je suis conscient que plusieurs ont été touchés par la grâce. Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, qui est mort en camp durant la Seconde Guerre mondiale, a dit « C'est la voix de l'Église qui se fait entendre à travers le chant en commun. Ce n'est pas moi qui chante, c'est l'Église. Mais comme membre de l'Église, je puis avoir part à son chant. C'est ainsi que tout vrai chant en commun doit servir à élargir notre horizon spirituel, nous amener à reconnaître notre petite communauté comme un membre de la grande chrétienté sur terre et à prendre rang librement et joyeusement avec notre chant plus ou moins faible et bon, dans le chant de l'Église. » Nous entretenir par le chant, ça a un impact sur la communauté, ça a un impact sur ma manière de voir l'Église. Et si on en reste juste à ce passage, le chant en commun a pour objectif de faire grandir ma relation avec mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit simplement, parlez-vous par des chants, des hymnes, des cantiques. Dites-vous, entretenez-vous. Regardez le passage de Colossiens qu'on a eu tout à l'heure. Entretenez-vous par le chant. À travers le chant, nous nouons notre relation entre frères et sœurs. Le chant me fait prendre conscience que la vie chrétienne ne se vit pas seule. Le chant me conduit à rendre grâce à Dieu pour tout. C'est exactement ça qu'il dit à la fin. Rendez grâce toujours pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chant me conduit à rendre grâce pour tout pour le salut acquis en Jésus-Christ, pour sa grâce et notre espérance à venir. Vous savez, face à un tel passage, parlez-vous, entretenez-vous, on rend compte que on est béni d'être ensemble. Chacun ici, chacune apporte à ma vie. À travers le chant, lorsque tu chantes, lorsque tu déclares ta foi, si un frère ou une sœur va moins bien, peut-être que tu vas l'encourager ce matin. Lorsqu'il va voir que l'Église proclame que son Sauveur est encore vivant, qu'il est encore agissant, peut-être que ça va l'encourager ce matin parce qu'elle, elle n'a pas la force de le dire. Il y a à peu près 10 ans en arrière, une personne m'a posé la question, « Jérémy, c'est quoi ta manière de voir le chant dans l'Église ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu attends du chant dans l'Église ?» Comment tu conçois ça? Et c'est sûr que la louange, c'est toujours un sujet qui me pose question, réflexion encore aujourd'hui. Puis, à l'époque, je lui ai répondu la chose suivante. Aujourd'hui, je ne répondrai plus ça, mais je lui ai dit, lorsque je vois tous les gens, les mains levées, les yeux fermés dans l'église, je pense que ça, c'est bon. Et là, on l'a l'affaire. Mais ce matin, face au passage que l'on vient de lire, j'aimerais vous encourager de temps en temps à ne pas fermer les yeux, mais à regarder les gens qui chantent autour de vous. Regardez le corps de Christ, regardez l'Église qui célèbre son Sauveur. Regardez l'impact que Dieu a dans son Église. Lorsqu'on chante, ce n'est pas juste un moment pour atteindre la prédication, mais c'est des hommes et des femmes qui proclament que Jésus a changé leur vie. Et alors quand on ouvre les yeux, on a conscience de ça. La louange n'a pas rapport avec moi, mais un rapport à Jésus et son Église. Amen. Puis, vous savez, ma femme et moi, on aime beaucoup le rugby. Je ne sais pas si des personnes aiment le rugby ici. Ok. On aime beaucoup le rugby. Puis dernièrement, il y a une compétition sportive qu'on appelle le tournoi des six nations. C'est un tournoi en Europe. C'est les six plus grandes nations du rugby qui s'affrontent. Puis, on aime regarder les matchs. Ma femme ne veut surtout pas louper le début dès que c'est projeté à la télé. Donc, il faut regarder les hymnes, il faut regarder l'avant-match. Et on regarde les hymnes, puis notre fils a commencé, qui va apparaître à l'écran, a commencé à chanter les hymnes avec nous. La main sur le cœur, toujours. L'hymne national français, la Marseillaise. Mais ce que je trouve incroyable dans un hymne national, peu importe de quel pays c'est le pouvoir de rassemblement. Que tu sois haut placé ou que tu sois le plus bas de la société. Peu importe ton arrière-plan, lorsque l'hymne national est chanté, tout le monde se rassemble et chante. C'est vrai, vous l'avez constaté comme moi. C'est assez incroyable. Et la Marseillaise, l'hymne français, je lisais et puis je voyais qu'elle avait deux objectifs. Appeler à la guerre contre l'ennemi, mais aussi proclamer la liberté. Ce matin, Église, j'aimerais vous dire... Nous sommes nous aussi appelés en tant que peuple de Dieu à unir nos voix d'une même voix. Mais non pas pour appeler à la guerre, mais parce que la guerre est remportée. Jésus a déjà vaincu l'ennemi de nos âmes et Jésus a triomphé à la croix. Et Jésus ne nous appelle pas à une future liberté, mais nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà libérés en son nom. Alors ce matin, Église, je vais prier et après ça, j'aimerais qu'on prenne un chant ensemble. On va déclarer ensemble que notre dette est payée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à lui. Et rappelons-nous ce message. L'apôtre Paul nous encourage à avoir de l'influence dans les différentes sphères de notre vie. Ça passe par notre vie, notre relation personnelle avec Jésus. Et cette relation personnelle avec Jésus va aussi avoir un impact dans l'Église. Et en plus que d'impacter ta sphère, tu vas impacter l'Église. Tu vas encourager tes frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, cette semaine, nous encourage à renouer avec Jésus, si ce n'est pas le cas. Continuez, si c'est déjà le cas. Et je crois que Dieu va agir puissamment dans vos vies et à travers vos vies. Amen. On peut se lever ensemble, je vais prier, puis on va chanter. Père, merci pour ta grâce. Merci d'être celui qui est venu changer nos vies. Merci de nous avoir appelés tes enfants. Ce matin, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous contenter de ça. Tu nous as promis plus. Tu nous as promis ton esprit qui venait nous renouveler, nous rendre, Seigneur Jésus, plus semblable à toi au fur et à mesure, pour avoir un impact dans cette société et te rendre gloire davantage, pour avoir un impact, Seigneur, dans notre Église. Alors Jésus, cette semaine, on se remet entre tes mains. On veut revenir à toi, venir encore à toi. Viens changer nos vies. C'est toi qu'on aime et qu'on célèbre, Jésus. C'est ta gloire qu'on veut chanter, Père. Tout le monde dit Amen et Amen.